Au pays des contes. Bonjour. Et aujourd'hui, je vous présente un visage de Merlin l'Enchanteur, un visage peu connu, mais ressemblant. Il était une fois un général breton qui avait longtemps servi son roi. Et voilà qu'à l'approche du grand âge, il a demandé son congé et il s'est retiré dans son manoir pour y vivre tranquille avec ses trois filles. Mais à peine avait-il passé là quelques mois qu'il reçut une lettre du roi. « Mon cher général, j'ai le regret de vous faire savoir que les Saxons m'ont déclaré la guerre et se préparent à envahir mon royaume. Aussi, vous prierai-je de bien vouloir reprendre du service auprès de moi, car vous seul êtes capable de les arrêter. Ne tardez pas, votre roi bienveillant. » Le général a relu la lettre une fois, deux fois. Il a poussé un gros soupir et quand il a été à table ce midi-là, il n'a rien pu manger. Cela ne passait pas. Alors, Catel, la plus jeune de ses filles, a dit « Qu'est-ce qui vous coupe l'appétit, mon père? Êtes-vous souffrant ?»« Sans doute. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les rhumatismes qui me font souffrir. C'est la volonté du roi. Peut-on savoir en quoi, s'il vous plaît ?»« Eh bien, comme les Saxons lui ont déclaré la guerre, le roi m'invite à reprendre du service. Or, pour ce qui est du service, je lui en ai donné pendant 30 ans. » Et j'en porte encore les marques sur toute ma personne. Alors je pense avoir bien mérité qu'on m'oublie un peu. Place aux jeunes. Voilà ce que je dis. Mon père, dit Catel, je vous approuve de tout cœur. Quoi qu'il en soit, je dois répondre. Si encore, au lieu de fille, j'avais eu des garçons, l'un d'eux m'aurait sans doute remplacé. Mais ce n'est pas le cas. Oh, il est vrai que la guerre n'est pas notre affaire, a dit l'aîné. Oh, et c'est très bien ainsi, a dit la deuxième. La plus jeune a gardé le silence un moment, puis elle a dit « Mon père, j'ai une idée. Trouvez-moi un habit de cavalier, un sabre, un cheval, et j'irai me présenter au roi comme étant votre fils. » « Voyons, Catel, vous n'y pensez pas. Les soldats sont des gens brutaux et grossiers. Vous êtes trop délicate. »« Oh, je ne suis pas une oie blanche, mon père. Je suis grande, solide, je monte à cheval comme un homme. Laissez-moi faire. » « Êtes-vous donc tellement décidé ?»« Oui, père, soyez-en sûr. »« Alors venez avec moi. » Et le général a conduit sa plus jeune fille dans le grenier du manoir et il a dit « Voici un sabre qui a le pouvoir de trancher tout ce qu'on veut à plus de 9 pas au-delà de sa pointe. Emportez-le, je serai plus tranquille. Quant au cheval, puisqu'il vous faut le plus vaillant de mes écuries, vous prendrez Birvidic. » Et le lendemain matin, vêtue en homme et sabre au côté, Catel a embrassé son père et ses sœurs, elle a enfourché Birvidic et la voilà partie. Et le soir même, elle se présentait devant le roi. « Sire, a-t-elle dit, j'ai mission de vous transmettre les salutations dévouées du général Kermarec, qui n'étant guère valide en raison de ses rhumatismes et de son grand âge, vous envoie son fils Erwan, c'est-à-dire moi-même, pour vous débarrasser des Saxons, si Dieu le veut. »« Erwan Kermarec, a dit le roi. » « Vous m'envoyez surpris. Quel est donc votre grade ?»« Sire, je suis lieutenant. En vérité, lieutenant, vous me paraissez bien jeune pour une telle entreprise. Mais enfin, bon sang ne saurait mentir à ce qu'on dit. Vous commanderez donc mon premier régiment de cavalerie. » Le lendemain, à la tête de son régiment, le lieutenant Kermarec se porte à la rencontre des Saxons. Et à peine les deux armées se sont-elles alignées que le soi-disant lieutenant s'enfonce dans les rangs ennemis. Il sabre tant et si bien de droite et de gauche que les Saxons tombent comme des mouches. Bref, la bataille n'est pas engagée depuis 3 quarts d'heure que l'ennemi est totalement défait. Eh bien le roi, quand il a vu le travail, vous pouvez croire qu'il était content. Si content qu'il a embrassé son lieutenant et qu'il l'a nommé capitaine. Mais bientôt les autres officiers sont devenus jaloux. Et ils ont fait courir le bruit que le capitaine Kermarec s'était prétendu capable de capturer l'homme sauvage, ravageur de vergers, pilleur de potagers, l'homme sauvage qui vit dans la forêt. Bon, c'était pur mensonge. Mais vous savez, les fausses nouvelles, c'est comme les vraies, ça circule. Et celle-ci a fait son chemin, et voilà qu'elle est arrivée aux oreilles du roi. Et le roi, sur l'heure, a fait appeler son capitaine. « Dites donc, Kermarec, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On m'a dit que vous vous prétendiez capable de capturer l'homme sauvage qui nous a toujours échappé. C'est vrai, ça? Mais non, sire, jamais je n'ai dit une chose pareille. Écoutez, il a bien fallu que vous le disiez puisqu'on me l'a répété. Alors, si dans la quinzaine, vous ne m'avez pas livré vivant cet homme sauvage, il n'y a que la mort pour vous. Bon, le capitaine a mis une gourde et du biscuit dans sa musette, il a enfourché Birvidic, et le voilà parti. Et une fois dans la forêt, il a chevauché en long, en large, en travers, regardant bien autour de lui, mais il n'a pas rencontré l'homme sauvage. Alors, comme il retournait vers l'orée de la forêt, en passant dans une clairière, il a vu là une petite vieille, assise sur un tas de bûches. Elle a levé les yeux vers lui et elle a dit « Beau capitaine, j'ai grand faim. Auriez-vous quelque chose que je puisse manger ?»« Une ration de soldat, grand-mère, c'est tout ce que j'ai. Mais si ça peut vous contenter. » Et le capitaine a sorti le biscuit de sa musette et il l'a donné à la petite vieille. Elle en a croqué juste une bouchée, puis elle a dit « Vous avez bon cœur, Katel Kermarek. Vous ne resterez pas en peine. »« Comment ? Vous savez qui je suis ?»« Pas seulement. J'en sais beaucoup plus long sur celui que vous cherchez. Je vous dirai même comment l'attraper, si vous voulez. »« Voilà. Vous irez d'abord trouver le roi. Comme il est prêt à tout pour qu'on lui attrape l'homme sauvage, il vous écoutera, soyez-en sûr. » Dites-lui donc qu'il commande à son forgeron de vous fabriquer au plus vite un lit piège. Un lit conçu de telle sorte que dès qu'on s'y allonge, clac, il se replie, se verrouille et devient une cage. Quand le lit sera fabriqué, vous le ferez porter dans cette clairière et vous disposerez aux abords une barrique de cidre doux et une table garnie, de bonnes choses à manger. Oh, 2 ou 3 douzaines de galettes, une plaine chaudronnée de carottes, fèves, choux, navets, quelques paniers de fruits. Oh, faudra-t-il mettre du fricot ? Surtout pas, malheureuse, celui que vous cherchez a du flair. Et si vous mettiez là du fricot, jamais il n'approcherait. Mais le fricot, grand-mère, ça sent bon ? Pour vous, peut-être, mais vu que l'homme sauvage est l'ami des bêtes, il ne les mange pas. « Eh bien, grand-mère, c'est une chance de vous avoir rencontrée. Au revoir et merci. »« Attendez, jeune fille, ce n'est pas fini. Quand vous aurez disposé tout ça, vous irez vous percher sur le gros chêne là-bas, avec un sac dans lequel vous aurez mis 3 pigeons. S'il arrivait qu'on jette une pierre de votre côté, lâchez un pigeon. Voilà, vous en savez assez. » Le capitaine Kermarek est vite allé trouver le roi, qui l'a écouté de bout en bout, et il a obtenu, sans que cela traîne, tout ce dont il avait besoin. 7 jours plus tard, la barrique, la table garnie et le lit piège, étant disposés bien comme il faut dans la clairière, le capitaine Kermarek est allé avec son sac de pigeons se percher sur le gros chêne et tout en regardant à travers le feuillage, il a attendu. Peu après, il a vu s'avancer à pas compter dans la clairière un homme tout en guenilles, les bras et le visage couverts de poils. L'homme s'est arrêté. Il a juste tourné la tête. Il a fixé son regard sur le chêne et il a dit « Quand l'oiseau repose, tout est tranquille. Merlin, mon ami, l'oiseau repose-t-il » Il a ramassé une pierre et il l'a lancée sur le chêne. Un pigeon s'est envolé. Merlin l'a suivi des yeux et il a dit « L'oiseau reposait ». Donc, il était seul. Marchons toujours. Il s'est approché de la barrique et il a vidé bolée sur bolée de cidre doux. Ensuite, il est allé vers la table. Ayant englouti une pile de galettes, il s'est emparé d'une grande cuillère de bois, l'a plongée dans le chaudron. Mais il s'est arrêté, il a tourné la tête, il a encore fixé son regard sur le chêne et il a dit « Quand l'oiseau repose, tout est tranquille. Merlin, mon ami, l'oiseau repose-t-il ? » Il a ramassé une autre pierre et il l'a lancée sur le chêne. Un pigeon s'est envolé. Merlin l'a suivi des yeux et il a dit « L'oiseau reposait, donc il était seul. » Voyons la suite. Il s'est pris une bonne ventrée de carottes, fèves, choux, navets. Après quoi, il a cassé des noix, croqué des pommes, vidé la barrique. Et pour finir, plein comme une outre, il s'est dirigé vers le lit. Alors, Il a jeté un regard plutôt lourd vers le chêne et il a dit « Quand l'oiseau repose, tout est tranquille. Merlin, mon ami, l'oiseau repose-t-il » Il a ramassé une troisième pierre et il l'a lancée vers le chêne. Un pigeon s'est envolé. Merlin l'a suivi des yeux et il a dit « L'oiseau reposait, donc il était seul. Prenons nos aises. » Il s'est laissé tomber sur le lit, mais clac, le lit s'est replié. Merlin était en cage. Alors, le capitaine Kermarec est descendu de son chêne et il s'est approché. Le prisonnier l'a regardé venir et il a dit « Vous seul pouviez m'attraper, qu'a-t-elle Kermarec. Mais croyez-le bien, sans les conseils de la vieille commère, à l'heure qu'il est, nous n'en serions pas là. » Eh bien, quand le roi a su que Merlin était en cage, vous pouvez croire qu'il était content. Il a fait porter la cage au château et il a réuni tout son petit monde et il a dit « Bonnes gens, ce particulier que vous voyez là n'est pas prêt de remettre les pieds dans vos plates-bandes. C'est moi qui vous le dis. Poilu comme il étonnera beaucoup mes visiteurs. Et je vous préviens, tous autant que vous êtes, que si par malheur quelqu'un permettait qu'il s'échappât, ce quelqu'un-là aurait à craindre pour sa vie. » Telles furent les paroles du roi ce jour-là. Quant au capitaine Kermarec, pour avoir enfin capturé Merlin, il était bien vu comme jamais. Le roi était à deux doigts de le faire colonel quand la reine a dit « Je conviens que le capitaine Kermarec porte bien l'uniforme, qu'il est bon cavalier, mais enfin, lui donner du galon quand la guerre est finie, est-ce bien raisonnable ?»« Non, si vous tenez à son avancement, donnez-le-moi plutôt comme écuyer. » « Eh bien, madame, je vous le confie, » a dit le roi. « Mais sachez qu'en cas de guerre, je vous le reprendrai. » Et c'est comme ça que le capitaine Kermarec est devenu l'écuyer de la reine. Autant vous le dire tout de suite, la reine trouvait son écuyer fort séduisant. Ses yeux surtout la ravissaient. Si bien qu'elle en est tombée follement amoureuse. Mais l'écuyer, lui, s'en tenait strictement à son service. Il ne répondait en rien aux avances qu'on lui faisait. Alors de dépit, les sentiments de la reine se sont retournés. La rancune et le fiel ont envahi son cœur. Et un jour, elle est allée trouver le roi et elle a dit « Cher époux, je me suis beaucoup trompée sur le compte du capitaine Kermarec. Figurez-vous qu'il m'a manqué de respect. » « Mais comment ?»« Qu'il m'a manqué de respect, sire. Faites-moi la grâce de comprendre. » « Eh bien, madame, il va savoir ce qu'il en coûte. Garde, allez me chercher le capitaine Kermarec et plus vite que ça. » Et les gardes sont allés chercher l'écuyer de la reine. « Dites donc, Kermarec, la reine me fait savoir que vous lui avez manqué de respect. C'est vrai, ça ?»«
Mais non, sire, je ne vois pas. »«
Comment ? Vous vous êtes dire que la reine est une menteuse ?»« Ah, cette fois, c'en est trop. Dans 3 jours d'ici, Kermarec, à 9h du matin, pour crime de lèse-majesté, vous aurez la tête tranchée. » Et 3 jours plus tard, à 9h du matin, devant une foule de gens, le capitaine Kermarec était conduit près du bourreau. Et quand les tambours ont cessé de battre, le roi a dit « Kermarec, si vous avez un message pour votre famille, une dernière volonté ou quelque chose comme ça, je vous écoute. » «
J'aurais plutôt une question, sire. »
« Posez-la toujours. Vous m'envoyez à la mort pour avoir manqué de respect à la reine. Mais comment une femme pourrait-elle manquer de respect à une autre femme ?»
« J'entends bien, Kermarec, mais vous n'êtes pas une femme. »«
En vérité, sire, mon père n'a jamais eu de garçon, mais seulement des filles. Et moi, je suis Catel, la plus jeune des trois. »
Mais alors,
le roi s'est tourné vers la reine. « Madame, c'était vous la menteuse ? Garde, amenez donc la reine près du bourreau et qu'il fasse proprement son travail. » C'est ainsi que la reine a eu la tête tranchée.
3 semaines plus tard, le roi épousait en seconde noce Catel Kermarec et bientôt après, leur naquit un fils qui fut appelé Lannic.
Les années passèrent et quand Lannic eut 12 ans, sa mère lui remit en cadeau 3 boules d'or. Et voilà qu'un jour, comme Lannic jouait à faire rouler ses boules d'or, l'une d'elles a roulé jusque dans la cage de Merlin.
Alors le jeune homme est allé dire au prisonnier « Merlin, rendez-moi ma boule d'or. Je vous la rendrai quand vous m'aurez ouvert cette cage. » « Mais je n'ai pas la clé. » « C'est tout simple, a dit Merlin. Allez voir votre mère, posez votre tête sur ses genoux et dites-lui que vous avez des poux. Pendant qu'elle regardera ce qu'il en est, glissez votre main dans la poche de sa robe et prenez la clé. » Et la nique est allée trouver la reine et pendant qu'elle fourrageait dans ses cheveux, il a glissé la main dans sa poche et il a pris la clé. « Mais mon fils, il n'y a pas l'ombre d'un pou dans votre tête, a dit la reine. Allez donc jouer dans la cour et ne me dérangez plus. » Le jeune prince a couru déverrouiller la cage. Sitôt sorti, Merlin lui a rendu sa boule d'or et il a dit « Vous avez bien travaillé, la nique, et vous n'aurez pas à le regretter. S'il vous arrive un jour d'être en peine, il vous suffira de dire « À moi, Merlin, pour qu'aussitôt je sois à vos côtés. Mille merci, mon prince. Et salut !» Mais voilà que le majordome a vu la cage ouverte. Il a couru trouver la reine et il a dit « Merlin, madame, il s'est enfui. » La reine a mis la main à sa poche, elle a pâli, puis elle a dit « Trouvez-moi la nique et dites-lui que sa mère l'appelle. » Et quand le jeune homme est venu rejoindre la reine, elle a dit « Je vous ai cherché des poux tout à l'heure, vous n'en aviez pas. La clé n'est plus dans ma poche, est-ce vous qui avez ouvert la cage ?»« Oui, ma mère, c'est moi. Et pourquoi l'avez-vous ouverte ?»« Je voulais reprendre ma boule d'or. » »« Votre boule d'or ?» Mais malheureux enfant, quand votre père apprendra que Merlin s'est échappé par votre faute, il vous tuera. Alors vous n'avez plus qu'une chose à faire, fuyez, fuyez vite et loin, et que Dieu vous protège. Et la nique est sortie par la porte basse et il a couru, couru, jusque dans la forêt. Comme le jour déclinait, il a eu peur. Alors il a dit « À moi, Merlin !»« Me voici, mon prince, qu'est-ce qui vous arrive ?» La nique s'est retournée, l'homme sauvage était là. « Parce que j'ai ouvert votre cage, mon père m'aurait tué. C'est ce qu'on m'a dit. Alors j'ai dû fuir et maintenant je ne sais pas où aller. »« Où vous devez aller, a dit Merlin, je vous y mènerai. Montez donc sur mon dos. » Et la nique est montée sur le dos de Merlin. Ils ont traversé la forêt et sont arrivés devant un château. « Dans ce château habite un roi, juste et bon, a dit Merlin. Allez donc trouver son intendant et demandez-lui de vous prendre comme berger. » Et la nique s'est présentée à la porte du château, il a demandé à voir l'intendant et « Si vous cherchez quelqu'un pour garder les moutons, c'est un métier que je connais. » L'intendant l'a regardé. « Bah, vous pouvez pas mieux tomber, mon garçon. Notre berger s'en va. » Et voilà comment le jeune prince fut engagé. La nique a mené les moutons sur la lande et il a attendu que le soleil fût un peu bas et il a ramené son troupeau vers la bergerie. Mais une fois revenu au château, il a vu des draps noirs autour des portes, des gens rasant les murs et parlant à mi-voix. Il est allé trouver l'intendant et il a appris que dans la forêt vit un monstre redoutable. C'est la bête à sept têtes qui exige qu'on lui offre chaque année une jeune fille à dévorer. Or, cette année, le sort a désigné la fille du roi. Et la nique a dit « Et quand doit-on livrer la princesse à la bête ?»« Oh, pas plus tard que demain. » Et le lendemain, la nique gardait ses moutons quand il a vu passer au bout de la lande un carrosse et 12 cavaliers. Peu avant la forêt, le carrosse s'est arrêté. Une demoiselle en est descendue, puis elle s'est enfoncée dans la forêt. Aussitôt, la nique a planté là ses moutons, il a couru dans la forêt et il a dit « À moi, Merlin !»« Me voici, mon prince, qu'est-ce qui vous arrive ?» La nique s'est retournée, l'homme sauvage était là. « La bête à sept têtes va manger la fille du roi, mais je veux l'empêcher. » Comme de juste, a dit Merlin. Ne bougez pas d'ici, je reviens. Il est passé derrière un chêne et l'instant d'après est apparu dans un bruit de ferraille un magnifique cheval, tout harnaché, portant sur sa croupe une armure complète et tenu contre la selle un grand sabre tranchant. La nique a pris le cheval par la bride et il a regardé autour de lui. Ne cherchez pas, mon prince, a dit le cheval. Je suis déjà revenu et si j'ai pris cette forme, c'est pour mieux vous aider. « Revêtez cette armure et montez sur mon dos. » La nique a dit « Elle est bien profonde cette forêt. Je ne sais pas de quel côté se trouve la bête. La princesse est entrée par la grande allée, c'est tout ce que je sais. »« Où vous devez aller, a dit le cheval, je vous y mènerai. Je vous y mènerai. » Il est parti au galop à travers les arbres, il a rejoint la grande allée et là, ils ont vu la fille du roi qui marchait vers son destin. Le jeune prince s'étant approché, il a dit « « Eh bien, mademoiselle, savez-vous que c'est imprudent de se promener toute seule en forêt, comme vous faites là ?»« Ah, je suis la mieux placée pour le savoir, chevalier, car je vais de ce pas me donner en pâture à la bête à sept têtes. »« Avec votre permission, mademoiselle,
Vous n'en ferez rien. Montez donc derrière moi sur ce cheval.
Oh, toutes vos belles paroles sont inutiles, chevalier. La bête est redoutable, et si elle n'obtient pas tout ce qu'elle désire, elle mettra tout le royaume de mon père à feu et à sang.
Eh bien, moi, princesse, je n'en suis pas sûre. Montez toujours.
La princesse est montée en croupe. Ils ont chevauché un moment, puis l'allée a fait un brusque détour, et à 80 pas devant eux, ils ont vu la bête.
Descendez, princesse, tenez-vous derrière ces arbres et priez le ciel que j'en revienne.
La princesse est descendue et la Nyx est avancée vers la bête.
Alors le cheval a dit doucement, « Écoutez bien, mon prince, empoignez votre sabre. Ne frappez que quand vous aurez la bête à votre droite et ajustez vos coups, car l'affaire sera chaude. »
La Nyx est encore avancée vers la bête.
Oh, Dieu, qu'elle était vilaine!
Le cheval s'est élancé, la bête s'est cambrée et les sept gueules ont craché des flammes.
Mais deux puissants jets d'eau ont jailli des naseaux du cheval, éteignant les gueules et aveuglant la bête.
La Nyx, étant du bon côté, a levé son sabre et tchic, il a tranché une tête.
À bonne distance, la princesse suivait des yeux le combat.
Le cheval allait et venait d'un côté à l'autre de la bête et lui décochait des coups de sabot dans le ventre.
Et quand la Nyx l'avait sur sa droite, il levait son sabre et frappait.
Une deuxième tête est tombée, puis une troisième.
Au milieu de la matinée, toutes les têtes étaient par terre. Et la bête était morte.
« Mon prince, a dit le cheval, vous avez bien travaillé. »«
Oh, parce que vous m'avez aidé, Merlin. » »«
N'en parlons plus. Ramenez donc la demoiselle chez son père, mais n'allez pas jusqu'au château. »
La Nyx, toujours chevauchant, est revenue vers la fille du roi.
« Montez derrière moi, princesse. Le divertissement est terminé, je vous raccompagne. »
Ils ont quitté la forêt, galopé vers le château, mais quelques 300 pas avant d'y arriver, le cheval s'est arrêté.
« Princesse, a dit la Nyx, je vous ne mènerai pas plus loin. Descendez, je vous prie, et courez embrasser votre père. »
La fille du roi est descendue. Elle a regardé le chevalier, puis elle a dit, « Ne pourriez-vous lever la visière de votre casque? J'aimerais quand même voir le visage de celui qui m'a sauvée. »
« Croyez que je le regrette, princesse, mais c'est impossible. »
« Puisque vous le dites, eh bien, merci, chevalier, merci de tout cœur, et adieu. »
Pourquoi n'avez-vous pas découvert votre visage, a dit le cheval.
Oh bah, parce qu'on aurait au fait d'y comparer celui du petit berger.
C'est beaucoup d'orgueil, mon prince. Mais pour la confiance, là, vous en manquez.
Retournons au corps de la bête, vite.
Et revenu près de la bête morte, le cheval a dit, prenez les sept têtes, mon prince, ouvrez les sept gueules, coupez les sept langues. Sous ma selle, vous trouverez un grand torchon. Mettez-y les langues et gardez-les.
Et maintenant, je dois m'occuper d'autre chose. Pour retrouver la lande où sont vos moutons, coupez par là, mon prince, il n'y a pas une demi-lieue et c'est tout droit.
Et sur ces mots, le cheval a disparu.
La Nyx s'était défait de son armure, il a mis le torchon contenant les sept langues sur son épaule et il est allé vers la lande.
Mais comme il marchait à grands pas dans la forêt, en passant dans une clairière, il a vu là une petite vieille assise sur un tas de bûches.
Elle a levé les yeux vers lui et elle a dit « Vous m'avez l'air bien pressé, mon garçon. Où allez-vous comme ça ?»«
Retrouvez mes moutons, grand-mère, s'ils sont encore là. » »«
Ils y sont, la Nyx, tous ensemble et bien tranquilles. »«
Comment ? Vous savez qui je suis ?»«
Pas seulement. Je connais aussi votre mère, la reine Catel. Je l'ai même aidée à capturer l'homme sauvage autrefois. »«
L'homme sauvage ? Eh bien, grand-mère, c'est moi qui l'ai libéré, celui-là. »
D'ailleurs, vu ce qu'il sait faire, je ne comprends pas qu'il soit resté si longtemps prisonnier.
C'est qu'il perd ses pouvoirs quand il est enfermé, notre cher Merlin.
Ah, je ne suis pas fâchée de lui avoir joué ce tour-là.
Plus de 15 années dans une cage, grand-mère. Pour un tour, vous pouvez dire que c'en est un.
Attendez un peu. 15 années pour vous, la Nyx. Pensez-vous que ce soit aussi 15 années pour lui?
Merlin et moi sommes de vieilles connaissances, vous savez. Et nous n'en avons pas fini l'un avec l'autre.
L'Indic a retrouvé ses moutons au grand complet. Il a attendu que le soleil fût un peu bas et il a ramené son troupeau vers la bergerie.
Mais une fois au château, il a vu venir vers lui l'intendant.
Ah, l'Indic, je dois vous annoncer du changement. Les moutons n'ont plus grand-chose à paître sur la lande. Nous avons dans la paroisse de Tréhaugan une belle prairie. Vous les mènerez là-bas demain.
Seulement, c'est quand même à 4 lieues d'ici, et je ne vous demande pas de les ramener dans la journée. Vous irez dormir 3 nuits chez Job le Guillou, et après ça, vous reviendrez. » Et pendant ce temps-là, la princesse avait retrouvé son père, qui, de la voir vivante, s'était grandement réjoui. Elle lui avait tout raconté du combat, puis comment le vainqueur l'avait ramené sur son cheval, et comment il avait refusé de lui découvrir son visage. Le lendemain matin, Lannic étant parti pour Tréhaugan, le roi s'est mis à son balcon, et devant tout le monde, il a dit « Mes chers sujets, je fais ici promesse de ma décision que celui qui, en tuant la bête à 7 têtes, a sauvé ma fille, l'aura très bientôt pour épouse. Qu'on se le dise et répète à seule fin que l'intéressé se fasse connaître. » Oh ! Guère de temps plus tard, un charbonnier, qui avait tout juste entendu parler de la promesse du roi, vint à passer près du corps de la bête. Ayant tout bien regardé, il a mis les 7 têtes dans un drap, revêtu l'armure que Lannic avait abandonnée et tout cliquetant a pris la route du château. Et arrivé là, il s'est fait conduire devant le roi et il a dit « Mon roi, il paraît que vous avez promis que celui qui a tué la bête à 7 têtes pouvait se marier avec votre fille. Alors je viens vous trouver parce que c'est moi. Et voilà les 7 têtes. Vous pouvez compter. » Le roi a fait appeler la princesse. « Ma fille, réjouissez-vous, voici votre sauveur et bientôt votre époux. » La princesse a regardé le visage noir du charbonnier. « Ainsi, vous êtes celui qui m'a ramené sur son cheval ? Il faut croire, puisque c'est vous qui le dites. Vous n'aviez pourtant pas cette voix éraillée ? Ah non, mais j'ai attrapé froid cette nuit. Mais mon armure, vous la reconnaissez quand même ? Oui, oui, je la reconnais. » « Ma fille, a dit le roi, les 7 têtes que voici sont les preuves indiscutables que cet homme vous a sauvée. Il vous aura donc pour épouse, comme j'ai promis. » Et quand Lannic, revenu de Tréhaugan avec ses moutons, les eut menés à la bergerie, il a vu le château tout pavoisé. Des gens qui accrochaient au mur des guirlandes, qui parlaient fort et qui riaient. Alors il est allé trouver l'intendant et il a dit « Que se passe-t-il dans ce château pour que les gens soient si gais ?»« Eh bien, mon garçon, le roi ayant promis que celui qui a tué la bête et sauvé notre princesse l'aurait pour épouse, figurez-vous que l'homme s'est fait connaître et que la noce est pour mardi. » Lannic est allé chercher le torchon contenant les langues qu'il avait cachées sous un tas de foin. Il a demandé à paraître devant le roi et il a dit « Sire le roi, je suis Lannic, votre berger. Merci de m'avoir reçu. Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?»« Demandez toujours, a dit le roi. « Est-il vrai que l'homme qui vous a tué la bête s'est fait connaître et qu'il va dès mardi épouser votre fille ?»« C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, je vous le confirme. »« Sire le roi, cet homme est un menteur. »« Ah, mesurez vos paroles, berger. L'homme qui s'est fait connaître a rapporté les 7 têtes que voici. J'en suis le premier témoin. »« Sire le roi, faites-le donc appeler, s'il vous plaît. Et votre fille aussi. » Le roi a fait appeler le charbonnier et la princesse, et quand ils ont été là, Lannic a dit « À présent, qu'on ouvre les 7 gueules qui sont ici, et que le roi veuille s'assurer si chacune a gardé sa langue. » On a ouvert les 7 gueules, l'une après l'autre. Le roi a pris la peine d'y regarder, puis il a dit « C'est assez curieux, mais je dois reconnaître que les langues n'y sont pas. » « Comme de juste, a dit Lannic, parce que les voici. » Il a dénoué son torchon et il a présenté devant témoin les 7 langues de la bête. Voilà qui change tout, a dit le roi. Qu'en pensez-vous, ma fille ? J'en pense que ce jeune homme est mon sauveur. J'ai tout de suite reconnu sa voix. Et Lannic a dit pour finir, puisque l'heure est venue de tout avouer, sachez que le roi Pangalé de Cornouailles et la reine Catel sont mes père et mère. Le charbonnier trompeur fut pendu sans retard et Lannic de Cornouailles épousa la princesse. Les pères et mères du marié furent invités pour le grand jour et quand le roi Pangalé eut appris comment l'homme sauvage avait aidé Lannic, il s'est passé la main sur le front puis il a dit « Que vous ayez ouvert cette cage, mon fils, je vous l'avais déjà pardonné. Mais aujourd'hui, je m'en réjouis. C'est alors qu'on a fait la noce et j'en étais. » Et je suis venue vous raconter toute l'histoire, du début jusqu'à l'autre bout. Merci beaucoup et au revoir.